Et c'est sur les petits cliquetis de Pierre Bastien que l'on débute ce troisième apéro radiophonique dans le cadre du festival Montpellier à 100%. Festival qui a débuté hier au Jam avec les excellents Fanga en concert. Un concert que vous étiez nombreux à suivre eh bien, au Jam directement. Et peut-être nombreux également à suivre devant votre poste de radio puisque Divergence FM retransmettait cet excellentissime concert hier soir. En ce qui nous concerne, pour aujourd'hui, eh bien, c'est Montgomery, un jeune groupe qui nous vient de Rennes, que l'on retrouvera ce soir donc, pour un ciné-concert Mad Max. Et je devrais être rejoint d'ici quelques instants par Alex Terror pour parler eh bien, de cette soirée ciné-concert. Alex Terror, grand exégète du cinéma post-nuke, comme il l'appelle, et il nous dira plus en détail de quoi il s'agit très précisément. On parlera donc avec lui de ce film sorti en 1980, film de George Miller, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne vais pas trop m'avancer, puisque je laisserai la parole plutôt aux spécialistes d'ici quelques instants. Et puis on aura deux musiciens du groupe Montgomery au téléphone d'ici quelques 30 minutes. Là, ils sont encore en balance, donc dès qu'ils auront terminé, on leur passera un petit coup de fil pour qu'ils nous parlent eux-mêmes de ce ciné-concert, de leur vie, de leur œuvre, etc., etc. On va débuter en musique avec un autre artiste que l'on pourra voir sur la scène du Trioletto demain soir. Belle soirée, belle affiche avec Fredo Viola et Soap and Skin. Fredo Viola, le New-Yorkais, Soap and Skin, l'Autrichienne. Ils seront nos invités demain à partir de 18h pour un apéro radiophonique en direct de chez nos voisins de Kawenga. Fredo Viola peut-être nous interprétera d'ailleurs quelques morceaux en acoustique. On l'espère. En tout cas, d'ici là, on l'écoute avec un extrait de son premier album sorti cette année. Body rap, 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 body rap. Thank you. Satsang Fredo Viola, donc extrait de son premier album, unique album à ce jour. Un garçon qui était vidéaste avant de sortir ce premier album, qu'il a sorti d'ailleurs un peu sur le tard. Bonhomme qui trafique aussi encore pas mal la vidéo, divers instruments bizarres et variés, et puis surtout sa voix, qui est quand même son instrument principal et qu'il trafique aussi en direct, en concert. Paraît-il, on est curieux de voir ça, ce sera demain soir. Au Trio Leto avec Soap and Skin, ça aussi une belle curiosité, une jeune autrichienne d'à peine 19 ans qui se produit toute seule en concert avec son piano, avec peut-être quelques machines, pas peut-être, c'est sûr même, et même avec quelques fleurs, puisque dans son contrat elle exige des lys, me semble-t-il, voilà, sur scène. On ne sait pas trop ce qu'elle en fait d'ailleurs, on vérifiera ça demain soir sur la scène du Trio Leto. Pour ce soir, c'est donc le ciné-concert avec Montgomery. C'est à la maison des étudiants à la fac Richter, un nouveau lieu pour le festival Montpellier à 100%, pour accueillir donc ce ciné-concert. Ça débute tout à l'heure, aux alentours de 21h. Alex Terror, y seras-tu ? Oui, tu y seras, j'imagine. Je te laisse prendre un casque. Un micro. Ah, il n'y a pas de micro. Dommage. Voilà, là, il y a un micro.
On y est. Bonjour, bonsoir.
Ça va, Alex ?
Oui, ça va bien.
Bon, c'était un peu obligé de te convoquer pour présenter, co-présenter ce petit apéro radiophonique autour de Mad Max. On va écouter un extrait du dernier album de Montgomery qui s'appelle Stromboli. Je ne sais pas si ça a à voir avec le fameux film italien.
Je sais pas. Ils ont l'air cinéphiles de ça, c'est une évidence, mais je ne sais pas du tout. Non.
On va écouter Megaceros, je crois que c'est le titre qu'on écoute là maintenant, et puis on reparle juste après de ce fameux Mad Max.
Oui.
Tu es là, sur tout le monde.
Montgomery, les Rennais de Montgomery, avec un extrait de leur deuxième album sorti au printemps. Stromboli, c'est son titre. Montgomery, pop assez vitaminé, comme ça, assez énergique et assez barré par moments. Quelque chose d'assez varié. Alors, on ne sait pas trop, en fait, on leur demandera tout à l'heure s'ils comptent jouer leurs morceaux habituels, enfin, leurs morceaux des albums sur ce ciné-concert.
Ou non, alors s'ils ont. Non, ils jouent une partition inédite.
D'accord.
Ouais.
Tu es bien mieux renseigné que moi.
J'ai vu quelques vidéos traîner et tout, quoi. Ouais. Parce que, en plus, c'est quelque chose. C'est pas un one shot quoi ce soir en fait, c'est quelque chose qui c'est un spectacle, voilà. Qui tourne en fait, ouais. Là on doit être la deuxième ou troisième date, ils ont joué au Locomotive dernièrement et ils ont quelques autres dates là cet hiver avec
Zinrock, au festival des Zinrock aussi la semaine prochaine,
ouais, tout à fait. donc c'est pas un truc de rigolo, ils ont vraiment bossé. J'ai une très belle vidéo sur le web qui tourne, on les voit en session avec ça doit être super ça, avec le grand écran, avec Mad Max à Donf et puis eux qui font non, attends, on arrête là, on repart à zéro et tout, ça doit être génial sur un grand écran comme ça. Voilà.
Autant dire qu'il faut absolument être à 21h à la maison des étudiants, ça s'appelle précisément la maison des étudiants Aimé Schöning de Richter, c'est donc dans le quartier des facs Richter, j'imagine que c'est assez facile à trouver, mais en tout cas il faudra y être ce soir. On va parler de Mad Max à présent, je sais que c'est un film qui te tient particulièrement à cœur, parce qu'il a engendré toute une descendance en fait. Ce film.
toute une descendance de sacré bâtard quand même, quoi. À savoir que, d'abord on va reposer un petit peu le contexte, Mad Max il a été réalisé en 78, il est sorti au début 79 en Australie, et puis il a eu maille à partir avec la censure dans le monde entier. En fait, à savoir qu'en France notamment, il était classé X, et ce qui fait que le distributeur ne voulait pas le sortir en fait. Et ils ont attendu en fait que Mad Max 2 sorte. En fait, Mad Max 2 est sorti sur le territoire français en 82. Il est sorti un peu avant Mad Max 1 finalement, quoi. En 82, ça a été une grande année permissive, à savoir qu'on a eu droit enfin sur les grands écrans français, on a eu droit à des choses comme Evil Dead qui était bloqué, on a eu droit à Zombie de George Romero qui est quand même un grand classique et un grand film social, quoi. Enfin, c'est du George Romero, quoi, La Nuit des Morts Vivants et tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en 82 qui est sorti aussi, le Massacre à tronçonneuse quand même, qui était interdit depuis 73, donc qui était tombé sous le coup du jugement, enfin du classement X de l'ère Giscard d'Estaing. Donc voilà, et ça avait sauté avec l'arrivée de la gauche. Et donc Mad Max 2 est sorti en France avant Mad Max 1. Mad Max 2 qui venait d'être auréolé par son triomphe au feu festival d'Avoriaz où il avait raflé le Grand Prix. Et donc voilà, Mad Max 1 sort. C'est pour ça d'ailleurs que les Français ont cette petite cette petite affection plus pour le 2 que pour le 1, parce qu'ils l'ont découvert après. C'est dommage parce que en fait le 1, c'est vrai que contrairement au 2 qui est un pur actionneur complètement
machine
barré,
bien rodée déjà.
Ouais, ça reste 30 ans après un sommet de rythme et enfin voilà. Donc c'est hyper moderne et celui-ci en fait le premier c'est vraiment plus down tempo. Déjà il y a beaucoup moins de moyens. Ça décrit un futur qui est pas aussi futuriste que dans le 2. Le 2 où c'est vraiment l'apocalypse, après l'apocalypse, il y a plus une goutte de pétrole. Là ça décrit une société qui est en pleine déliquescence en fait, on a l'impression d'être dans un no man's land où il n'y a pas de vraie ville. Le pays d'ailleurs n'est pas identifié, on ne sait pas où ça se passe en fait, il y a juste un certain contexte qui est posé. Et donc voilà, c'est cette fameuse histoire de Max, le policier qui voit sa famille assassinée par un gang de motards, qui prend les armes et qui va faire sa vengeance.
Max et son perf, Max et
Mel Gibson
dans son perf,
dans son premier grand rôle. Et il y a une anecdote qui est assez rigolote d'ailleurs, justement à propos de Mel Gibson et de son audition en fait, parce que donc il a passé des tests, il a passé une audition pour avoir le rôle, quoi. Et en fait il arrive, il était tout genou encore là à l'époque, le Mel Gibson il était pas encore sacrément burné comme maintenant, il n'avait pas
la coupe mulet,
voilà, il n'avait pas la coupe mulet de l'arme fatale encore, il était tout jeune, tout minot. Et en fait il est arrivé à l'audition et l'audition il avait avait le visage tuméfié. Et en fait, il s'était bourré la gueule la veille. Et il s'était clashé dans un bar. Non, pas comme le. non, lui, il a dit carrément à George Miller. Je suis désolé, mais hier soir, je me suis, on s'est cogné dans un bar et tout. J'étais raide. Et puis voilà, l'autre, George Miller, il a dit banco.
Banco.
Voilà. Et donc, ça donnait 3 Mad Max. Ça donnait aussi peut-être un 4e Mad Max qui est prévu pour 2011, qui s'appellerait Fury Road. Donc
avec
forcément Mel Gibson.
Avec
forcément. D'accord. Donc à voir, parce qu'en plus la saga Mad Max, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, parce que ce sont vraiment trois films différents déjà par le budget, puisque il y a eu une explosion de budget. On se souvient du 3 quand même où la grande méchante est jouée par Tina Turner,
elle chante hélas aussi
le générique qui est, ouais, j'ai un très mauvais souvenir de ce titre.
Mais le fameux dôme.
Oui, il y avait quand même des bonnes scènes, et surtout c'était un énorme budget, quoi. Déjà le 2 avait bien. Et donc voilà, il était passé par la case Hollywood, George Miller. Donc c'est le 3e, c'est un peu le mal aimé. Donc on espère que, parce que le 3e, c'est un petit peu une sorte de guerre des étoilisations, en fait, de Mad Max, à savoir que Max devient le sauveur, il mène une tribu d'enfants sauvages et tout, quoi. Alors bon, il y a quand même des bonnes choses, et intrinsèquement dans la saga ça se tient, en fait, voilà, le développement qu'a apporté George Miller, ça se tient, toute cette mythologie qu'il a posée d'une manière assez trouble et sans beaucoup expliquer, en fait, parce que Mad Max 1 reste un film qui survole beaucoup de choses, en fait, qui est très taiseux, donc à la rigueur ça laisse beaucoup de place pour la musique, donc, mais voilà, donc on espère que le 4e, j'espère que voilà, quoi. Et George Miller, je voulais juste dire un mot sur George Miller, parce que c'est ce réalisateur, c'est quelqu'un,
ils ont plusieurs, même.
C'est quelqu'un qui est vraiment 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 détonnant, à savoir que il a pas réalisé beaucoup de films. Il a réalisé moins d'une dizaine de films, entre autres il a réalisé Les Sorcières d'Eastwick, qui était un super film avec Jack Nicholson, Cher, ouais, Michel Pfeiffer, une superbe comédie fantastique, et donc il a pas réalisé beaucoup de films, donc c'est Max, c'est vraiment son héros. Et en fait il a un deuxième héros, parce qu'il a une deuxième saga à son actif qui est aussi connu que Mad Max, mais on sait moins que c'est le mec qui a fait Mad Max qui est derrière tout ça, c'est à savoir Babe, le cochon devenu berger.
Non.
Eh oui, c'est lui qui a scénarisé et produit le premier, et c'est lui qui a tout simplement scénarisé, produit et réalisé le deuxième, qui est superbe, quoi. Enfin, et donc voilà, moi c'est des films pour les mômes que j'adore, c'est des films en plus que moi j'adore en tant qu'adulte, je trouve ça super bien fait et très avec des valeurs. Et en fait voilà. Babe, c'est pas le négatif de Max, c'est un petit peu le Max gentil, en fait. Et en fait, on retrouve ce même personnage qui subit des durs événements et puis qui réagit et qui se retrouve. En fait, il y a toujours cette histoire de lien social, en fait. Là, dans le premier, en fait, Max coupe tout avec la société. La dernière image, quand même, est vraiment. Enfin, s'il part sur la, je dévoile pas la fin, mais il part sur la route et puis il tourne le dos à la société. Et en fait, le 2 et le 3, ça sera toujours ce retour à la société, en fait, où lui ne veut pas nécessairement, il veut juste être tranquille, et puis en fait il se fait rattraper. Et Babe, c'est un peu ça aussi, quoi. Lui, Babe le cochon, il voudrait juste être tranquille dans sa petite ferme avec et puis en fait il se retrouve en ville dans le 2, et le 2 est vraiment noir, et c'est un super film, et moi je conseille à tout le monde de Babe le cochon devenu berger, les deux.
Babe et Mad Max, même
Babe
combat.
Et Mad Max, ouais, même combat, exactement, ouais.
Pour rester sur Mad Max, il y a quand même une espèce d'aura un peu sulfureuse qui plane autour de ce film, sur des valeurs qui seraient peut-être pas fascistes, mais quand même pas loin.
Grand débat. Je dis, on peut être de gauche et aimer les films d'autodéfense. On peut être de gauche et aimer Charles Bronson.
Ouais.
Non, mais de toute façon, c'est un film qui est aussi ancré dans son époque, certes, mais c'est un film qui est justement assez universel, parce que ça repose aussi des questions. Ça pose pas mal. Les questions qu'il pose sont toujours d'actualité. Et puis, enfin, c'est pas tant les questions qu'il pose, c'est les réponses qu'il donne à certains problèmes. Et en fait, on aurait tort de faire de taxer Miller de fasciste. C'est pas parce qu'on montre des choses comme cela qu'on adhère, en fait. C'est pas qu'on défend ces choses-là. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit juste dans ce film? On voit quelqu'un, sa famille est tuée. Donc, et c'est un environnement fantastique. On ne peut pas le coller à la réalité comme ça. C'est une réponse qui est fantasmée quelque part. Et on va pas rentrer dans le débat, dans un gros débat moral là-dessus, quoi. C'est bête à dire, mais tout simplement, Un justicier dans la ville, The Death Wish, avec Charles Bronson, le premier de la liste. C'est pas un film. C'est loin d'être un film qui prône la loi du talion, qui prône tout ça, quoi. C'est un grand film dépressif. On a droit à des gens qui, donc ça fait partie de l'époque aussi, c'est les années 70, c'est la grande désillusion aussi, la grande désillusion de toutes les luttes gauchistes.
C'est les chocs pétroliers.
C'est les chocs pétroliers, c'est le début des années 80, les années clinquantes et tout. Donc ces films-là sont avant tout des films de crise, c'est pas des films qui prônent l'autodéfense, c'est pas des films qui sont violents pour être violents. Quoi. Ils disent quelque chose, c'est des films forts, ça c'est une évidence. Quand on utilise une imagerie comme ça, c'est évident que... mais c'est pas des films fascistes, non, enfin, loin de là.
La polémique tient peut-être d'ailleurs plutôt à la personnalité de Mel Gibson qui passe quand même pour un bon vieux réac.
C'est du révisionnisme de toute façon, parce que le gars Gibson, on le connaît comme ça depuis 10-15 ans quoi. Mais à l'époque, à la sortie, il était minot, il avait 25 balais, il avait pas tout le parcours, il avait pas tous ces films merveilleux qu'il nous a fait ensuite, parce que sincèrement, c'est un pur réalisateur, Mel Gibson, quand même. Braveheart, c'est assez troublant, quand même.
J'ai oublié le titre de ce film sur la vie de Jesus Christ.
Oui, je ne sais même plus comment il s'appelle. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est un super film gore. Mm-hmm. celui-ci... Gibson, c'est un personnage. Bon, après, son problème, il a un gros problème d'alcoolisme, il a un gros problème un peu violent, il a tendance à balancer des baffes à sa femme. Je l'excuse pas du tout et tout quoi, mais il fait des films comme ça quoi, c'est des films violents et tout, on va pas noyer le bébé avec l'eau du bain quand même quoi. Enfin, c'est tout ce que j'ai à dire.
On va pas le faire. On va peut-être parler de la musique originale du film que ce soir on n'entendra pas puisque c'est Montgomery qui va s'en charger. Est-ce que tu as souvenir du nom du compositeur et de la musique elle-même?
Alors la musique elle-même, j'ai pas trop le souvenir parce que quand je pense en termes de son à Mad Max, c'est j'entends des
bruits de moteur,
des crissements de pneus, des explosions, c'est ça quoi. Mais la BO a été composée par Brian May qui est le
guitariste de Queen,
un homonyme australien qui a fait une carrière en compositeur de BO, une belle carrière, et notamment justement parce que tous ces gens là à cette époque là en fait, c'est ce film fait partie aussi d'un certain âge d'or du cinéma australien, c'est à savoir 75, début 80, avec des réalisateurs comme Simon Windsor, Peter Weir, qui a signé après Witness, The Truman Show et tout, qui à l'époque avait fait des super films fantastiques comme La Dernière Vague ou Panic à Hanging Rock. Ça fait partie de toute une vague, il y a toute une armada justement de réalisateurs, de techniciens, d'Australiens qui ont émigré à Hollywood dans les années 80, qui ont fait des choses après. Je pense notamment à Simon Windsor qui avait fait un super film qui s'appelle Harlequin, qui est un pur film fantastique australien, qui a émigré aux States pour réaliser Sauver Willy. C'est un peu dommage. Mais c'est toujours le même problème de Hollywood, aimant cinématographique, et puis où finalement les gens perdent un petit peu leur particularisme. Et George Miller a réussi à rebondir étrangement par rapport à tout ça. Et ça en fait vraiment un réalisateur à part entière.
Il y a aussi Nicole Kidman qui a émigré à Hollywood pour sauver Tom Cruise, mais elle n'y est pas arrivée.
Non.
Échoué, lamentablement.
Ouais, lamentablement. Ouais.
Il est toujours, il demeure. Toujours englué dans ses problèmes de... Comment s'appelle
de,
ses...
De ses problèmes de scientologie.
Oui, absolument. Peut-être l'est-elle elle-même encore, de toute façon. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est Mad Max. Et c'est Montgomery qu'on va écouter encore avec un extrait de leur dernier album avant de leur passer un petit coup de fil pour qu'ils nous parlent, les gars.
Ouais.
Si bonne raison, extrait du dernier album de Montgomery, Stromboli, Montgomery qu'on retrouve ce soir. À la maison des étudiants, donc, pour ce ciné-concert Mad Max, on doit être en liaison téléphonique avec deux membres du groupe, Cédric et Benjamin. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien. Il n'y a que Benjamin, Cédric qui est reparti au balance.
Il n'y a que Benjamin, d'accord. Donc les balances ne sont pas terminées, visiblement.
Non, on a un petit peu de retard.
Ouais. Ok, ça se passe bien quand même ?
Oui, très bien. Ouais, y a toujours des petits trucs techniques qui arrivent comme ça quand on fait les balances, mais qu'on règle directement, quoi.
D'accord. On est bien content de vous avoir à Montpellier pour ce festival et pour ce ciné-concert. Je crois que c'est la première fois que vous venez dans notre ville, je crois.
En effet, oui, on est bien content de venir à Montpellier.
Racontez-nous alors Mad Max. Pourquoi ? Comment ça s'est passé cette histoire ? Pourquoi ce choix de Mad Max ?
Ben en fait, à la base, c'est une commande d'un festival, du Festival de Films de Vendôme, qui fait des ciné-concerts tous les ans avec des artistes qu'elle apprécie et tout ça, quoi. Et donc, ce festival a vu passer notamment Olivier Mélano avec Duel ou Yologique avec Vampire. Et nous, donc, il nous a proposé plusieurs films. Dont Mad Max, mais il y avait aussi Frankenstein et d'autres films plus classiques, plus noir et blanc et muet en fait. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même ce choix de Mad Max et ça nous a paru vachement plus logique par rapport à notre musique, plus, même par rapport à notre culture d'enfants des années 80. Et en fait, voilà comment ça s'est fait, Mad Max. C'est avant tout une commande, quoi, et une commande qui se termine bien, puisqu'on fait tourner un peu partout et ça se passe très bien.
Plus logique et peut-être un peu plus compliqué quand même, puisque sur un film muet, évidemment, on peut plaquer, enfin, on imagine plus facilement une musique. Alors que là, Mad Max, il y a déjà quand même un son qui est très présent dans ce film.
Oui, et d'ailleurs, on joue avec, on aime beaucoup, du coup. Mélanger la musique, notre musique avec les bruits des voitures, puisqu'il s'agit souvent de courses-poursuites. Ouais. Mais en fait, ça marche très bien et ça s'est fait très naturellement. Le film a comme ça un rythme assez musical et il est assez psychédélique aussi, donc le son va de pair aussi. Il n'y a pas vraiment non plus de bande-son vraiment présente, c'est souvent des espèces de nappes un peu bizarres qu'a fait Brian May à l'époque. Et on arrive à jouer avec et même à les enlever directement en gérant nous-mêmes le son du film.
D'accord.
Et en fait, le mélange se fait super bien et on trouve ça d'autant plus intéressant de jouer avec le son du film. Ouais.
Alors, quel âge aviez-vous en moyenne les 5 de Montgomery quand ce film est sorti ? Si vous aviez toutefois un âge.
On l'a tous découvert en vidéo, je pense. Hein.
Ouais, mais moi je pense qu'on était... il y en avait peut-être deux qui venaient tout juste de naître. Ouais. Il y en a deux de 79, donc voilà. Sinon, on est plus de 80. Enfin, non, on est deux de nés en 80, donc vraiment, on a découvert ça plus. Même, on a plus découvert ça, Mad Max, plus via le numéro 2, quoi, et même le numéro 3. Mais c'est vrai que le 1, en fait, est assez méconnu au final. Ouais, ouais. Peut-être des générations plus récentes, et même pas si récentes que ça, c'est pas forcément le plus connu, mais c'est largement le plus intéressant et le plus novateur encore maintenant, je trouve.
Et quel genre de rapport vous entreteniez avec ce film avant qu'on vous fasse cette proposition ?
Après, chaque membre du groupe avait son histoire. Il y en avait beaucoup qui connaissaient pas Mad Max dans le groupe. Enfin, Mad Max, je veux dire, si, on avait tous vu au moins le 2, quoi, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas plus d'affinité que ça avec la trilogie. D'autant plus, les trois épisodes sont quand même relativement différents. Mais en fait, c'est aussi cette couleur des années 80, un peu, enfin, là, c'est vraiment début 80, mais dans lesquels on a été bercé. Le Mad Max, c'est un peu le départ de films peut-être un peu hollywoodiens, un peu... Enfin, en même temps, il est pas du tout hollywoodien puisque c'est australien, mais qui laissait présager ce genre de film dont c'est pas mal nourri, genre, je sais pas, peut-être les Retours vers le futur ou les trucs comme ça. Enfin, y a un côté peut-être un peu foufou qui du coup nous correspond bien à notre génération à nous. Voilà peut-être ce qu'on peut en tirer de notre affinité avec ce film.
Et du coup, vous êtes plus globalement cinéphile ou pas ?
Oh bah, après ça dépend encore de chaque membre, mais oui, en général tout le monde est assez intéressé par le cinéma et on se tient assez au courant et c'est vrai que même par rapport à notre musique hors ciné-concert, on dit souvent de notre musique qu'elle est un peu contemplative, qu'elle pourrait être même un peu cinématographique et c'est vrai qu'on aime beaucoup utiliser même des sensations qu'on peut avoir dans des films qu'on aime ou d'ambiance de films. On aime bien, même au-delà du Mad Max, on aime bien même dans notre album, dans ce qu'on crée, on aime bien retrouver des ambiances de films qu'on a aimés, quoi. On l'explique même des fois aux gens avec qui on travaille par des images de films, quoi. Ça peut être utile.
Oui, et du coup, ça, est-ce que cette expérience-là vous a donné envie de bosser sur un film particulier, justement, du coup, puisque vous êtes parti d'une commande qui se termine bien, mais est-ce que vous n'auriez pas un petit truc qui vous collerait encore plus, peut-être, à l'univers de Montgomery, à tout ça, un film?
C'est pas évident, parce qu'à vrai dire, on est vraiment... je sais pas s'il y a un destin ou quoi, mais vraiment avec Mad Max, il se passe vraiment quelque chose de super. Et c'est vrai qu'on se pose souvent la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On n'a pas encore forcément trouvé quelque chose qui nous correspondait aussi bien, parce que c'est vrai que dans Mad Max, il y a tous ces moments de course-poursuite, de voiture, de violence un peu bizarroïde. Et il y a vraiment des trucs assez marrants avec les motards, des fois, les méchants qui font des petites danses et tout ça.
La fameuse scène sur la plage avec le mannequin.
Voilà, qui marche super bien avec notre musique. Ouais. Et du coup, plus on le joue, plus on se dit que c'est d'un naturel.
D'accord.
Voilà, quoi. On ne sait pas trop sur quel morceau on pourrait faire pour l'instant.
Et alors justement, comment est-ce qu'on colle aux images comme ça? Est-ce qu'il y a parfois un contre-pied par rapport à ce qu'on voit à l'écran, ou est-ce que vous essayez de coller à je sais pas, des scènes de poursuite, ce genre de choses?
Oui, il y a les deux, en fait, quoi. Il y a des fois où on peut plonger dans la noirceur d'une course-poursuite, ou de la violence, ou même d'un côté un peu métallique, comme il peut y avoir. Mais à la fois, des fois aussi sur d'autres passages, sur d'autres moments qui pourraient être très violents sans la musique, on les ridiculise un peu avec des musiques peut-être plus enfantines qui donnent à des scènes un peu violentes un côté un peu complètement psychédélique, bizarroïde, quoi. Et du coup, ça me peut mettre mal à l'aise. Et en même temps, ça fait passer des fois quelques scènes violentes un peu mieux. Je sais pas, je pense que le mariage se fait vraiment bien, parce que ça correspond aussi à notre musique. On aime beaucoup un peu déranger. Il y en a qui pensent que c'est de la naïveté, mais en général, dans notre musique, quand on touche un peu à l'enfance, c'est plus pour déranger ou créer quelque chose. Et là, dans le Mad Max, on le retrouve aussi.
Ouais. C'était un petit côté un peu, double sens, un peu malsain parfois, comme ça.
Oui, voilà, ouais. On aime beaucoup jouer avec ça, et le film s'y prête complètement.
Alors justement, pour rester dans la cinéphilie et pour s'éloigner un peu de Mad Max, par rapport à votre deuxième album là, qui est sorti au printemps et qui s'appelle Stromboli, ça a un rapport avec le film de Rossellini ou pas du tout?
Non, du tout, non. Non, malheureusement, enfin, du coup, il y en a qui se créent forcément après, mais non, ça a vraiment été... on avait créé le dernier morceau de l'album qui s'appelle Volcan, le dernier qu'on ait composé, et voilà, en se passant des diapositives, on est tombé sur une du Stromboli, parce qu'on regarde des diapositives entre nous.
Les soirées diapos, bravo les gars.
Soirées diapos, et parce qu'on travaille souvent avec des projectionnistes en concert qui s'appellent les Vitrines en cours, ils ont que des diapositives et des films 16 mm, donc on fait souvent des recherches avec eux, et puis on était tombé sur une diapo du Stromboli, et comme en plus il y a un des musiciens qui avait passé une expérience assez particulière au Stromboli, ça a été assez logique de choisir ce nom, en fait.
D'accord, donc le prochain album, ce sera peut-être Python de la Fournaise ou quelque chose comme ça?
Peut-être, ouais. On verra. On va peut-être faire tous les volcans. Ouais.
Petit retour aussi sur le nom assez intriguant de Montgomery qui questionne. On se dit, mais d'où ça sort? Ça sort de l'Alabama ou de Montgomery Clift, pour rester dans le cinéma, ou du maréchal britannique? Ça vient d'où?
Bah, un peu de tout, du coup. Ouais. C'est pareil, c'est un peu nous, on est un groupe qui joue pas mal sur l'accident, sur le côté un peu de la signification, enfin des couleurs ou des images qui peuvent partir comme ça d'un mot. Et c'est vrai que ce Montgomery, c'est juste venu peut-être en soirée quand on devait chercher, et sans réel, du coup, sans fond, quoi. Il y a pas d'histoire vraiment, quoi. Il y a juste une couleur, il y a une sonorité dans ce mot, il y a des choses. C'est comme avec le Mad Max, comme avec tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure, un peu on joue vachement sur la sensibilité. On n'a pas vraiment de raison dont on peut parler, mais on joue vraiment sur des sensations que peuvent créer les mots, les images et tout ça, quoi. Et Stromboli, comme Montgomery, notre nom de groupe, c'est venu vraiment parce qu'on a trouvé que ce nom sonnait bien. Il évoquait un paysage, il évoquait des choses, ouais, qui se passaient. Ouais, c'est bizarre, en fait, je trouve. Enfin, c'est ce qu'on trouve, en tout cas. Il est musical et intriguant.
On peut-être aussi parler un peu de foot, parce que moi j'ai un morceau que j'aime bien, hein, que vous avez fait, qui s'appelle sur Zidane, en fait.
Ouais, alors ça, c'est pareil, dans le groupe on n'est pas tous fans de foot, moi je fais partie des fans, donc ça va, ouais. Ça tombe bien.
Donc c'est toi l'initiateur de ce...
Un petit peu, ouais. Disons qu'avec notre manager, il nous parlait d'une compile pour SoFoot qui s'est jamais faite d'ailleurs, et il nous avait lancé comme ça, créé un morceau... Voilà, et puis comme on est des vrais fans, des vrais amoureux, enfin deux d'entre nous sont des vrais amoureux de football, on s'est dit que c'était en 2006, juste après, en plus sa retraite, donc on s'était dit que ça allait être marrant d'éventuellement, et puis un challenge aussi d'écrire sur...
Carrément, ouais.
Après, c'est complètement... Là, du coup, c'est vraiment rigolo et tout ça, quoi. Il y a un côté...
C'est pas dur de passer après Obispo, du coup
Ouais, malheureusement, ouais. On est plusieurs à avoir eu la même idée, peut-être pas tous dans, pour les mêmes raisons, mais, ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu dur, ouais, c'est sûr. Mais le morceau, personne ne doit le connaître, c'est sympa d'en parler, parce que c'est vrai que c'est sur aucun album, et on l'a mis sur, pour l'instant sur aucune, même aucun 5 titres ou un truc comme ça.
Ouais, je crois que c'est les Inrock qui l'avaient mis sur leur site à une époque,
exactement,
me semble-t-il.
Ouais, ouais, c'est exactement. Ça.
Parlons également de votre ville d'origine, Rennes, si je ne dis pas de bêtises.
En effet, ouais.
Qu'est-ce que ça représente pour vous de venir de cette ville qui a quand même une sacrée histoire en termes de musique actuelle et de rock plus spécifiquement?
Ben, disons qu'en tout cas, bon, on vient forcément, on est venu plus sereine pour les études à 18 ans. Il n'y a qu'un vrai Rennais, il y a un Lorientais et puis les trois autres sont Lavallois. Donc voilà, quoi, on vient sur Rennes parce que c'est un peu la capitale, la ville attractive du coin. On a de la chance parce que c'est une ville rock. En effet, il y a toute l'histoire, il y a toutes les trans musicales, des moments incroyables qu'on a tous vécu. Des moments un peu de légende, quoi, à chaque fois. Et c'est vrai que forcément, ça nous habite, ça transcende aussi un minimum la création, quoi. On a envie d'être un peu à la hauteur aussi de cette... De la ville, quoi, quelque part, avec tous les artistes qui s'y trouvent aussi. Donc forcément, ouais, ça... C'est vraiment très agréable d'être à Rennes, il y a toutes les infrastructures, les gens, il y a une connaissance, il y a tout ce qu'il faut, quoi. On est vraiment très content d'habiter là-bas, c'est très agréable autant artistiquement que humainement.
Est-ce qu'il existe encore à Rennes une scène comme ça peut être le cas dans les années 80 justement?
Ouais, je pense qu'il y a... Alors après moi je vais plus parler de ce que je connais, mais entre Laetitia Sheriff ou les Bikini Machines ou Santa Cruz et bien d'autres, il y a plein de super groupes... Qui à mon avis, enfin n'ont rien à envier à qui que ce soit, qui font leur musique comme ils l'entendent et comme ils le souhaitent, sans aucun frein, quoi. Et je trouve que du coup, ce qui s'y passe, c'est vraiment super.
Est-ce que les, justement cet héritage vous a influencé, ou est-ce que les influences de Montgomery, elles sont plutôt à chercher ailleurs, du côté de outre-Atlantique, outre-Manche?
Sans doute qu'elles sont plus à chercher peut-être vraiment dans ce qu'on a pu écouter nous plus jeunes, sans même pouvoir se déplacer à Rennes, parce que c'était pas toujours évident, dans la musique peut-être grunge des années 90 et tout ça, à la base, c'est un peu ça qui nous a lancé. Après, là, une influence après, une fois qu'on est sur Rennes, une fois qu'on rencontre du monde, c'est Franck Darcel et Marquis de Sade qui a commencé à s'intéresser à nous en plus, donc ça tombe bien par rapport
au parrainage.
Et donc forcément, on s'est aussi vachement intéressé à ce qui s'était passé à ce moment-là. Même quelqu'un comme Étienne Dao nous influence, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est plus quand on est arrivé sur Rennes, même quand on était en contact avec Franck, on est toujours avec lui d'ailleurs. Et donc il nous a pas mal guidé aussi, et ça nous a quand même pas mal habité, ouais.
Alors il y a des connexions comme ça qui apparaissent dans ce festival Montpellier à 100%. Personnellement, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que Thomas, de chez vous, jouait aux côtés de Dominica.
En effet, ouais.
Voilà, donc ça fait encore un point commun avec ce festival qui accueille Dominica dans quelques jours. Là aussi, ça fait partie des figures pour vous?
Ben oui, d'autant plus ça nous permet de faire quelques dates avec lui. On a la chance, grâce à cette connexion, de pouvoir faire la première partie sur quelques dates françaises, là. Et c'est une influence totale. C'est pour nous, je pense, même l'influence française majeure, quoi, par rapport à ce qu'il dégage et tout ça, par rapport aussi à sa façon d'aller à fond là où il a envie d'aller. Et c'est une des plus grandes figures françaises de musique, en tout cas pour nous, quoi. Et on est vraiment très fiers d'être à ses côtés en ce moment, un petit peu, de partager un peu ces moments, quoi.
Très bien. Pour revenir et pour finir peut-être par rapport à la soirée de ce soir, on peut préciser que c'est quand même une partition originale que vous interprétez. Il ne s'agit pas d'extraits de vos deux albums, ni d'autres choses.
Si, en fait, on sortait tout juste de l'enregistrement du deuxième album, et en fait, on a repris tout simplement des thèmes de nos chansons, quoi. Alors, pour les trois quarts, il y a des choses qu'on a créées pour l'occasion. Mais en fait, tout s'adaptait très bien. On s'est dit, tiens, ça collerait super bien avec ce morceau-là, ce passage-là et tout ça. Et au final aussi, c'est pas mal du dernier album. Enfin, réaménagé, quoi. Il n'y a pas les textes, forcément. Oui. C'est vraiment la musique. On s'amuse à tourner autour des scènes et tout ça. Donc on va retrouver du Stromboli. Et c'est un peu un mélange Mad Max Stromboli, ouais, ce ciné-concert.
D'accord. Est-ce qu'on retrouve, par exemple, le chat sur la route de Mad Max ce soir?
Non, il n'a pas trouvé sa place sur la route de Mad Max.
Bon, bah tant pis, on va quand même l'écouter pour...
Mad Max lui a roulé dessus à pleine vitesse.
Écraser le chat.
C'est la première scène. Ouais.
Tant pis, on va quand même l'écouter pour se quitter. Merci d'avoir été avec nous, Benjamin. On te souhaite un bien bon ciné-concert ce soir. Et puis on invite évidemment tous les auditeurs de Divergence et même ceux qui ne sont pas auditeurs de Divergence à venir ce soir à la Maison des étudiants, quartier Fac-Richter, pour ce grand moment du festival 100%. Le ciné-concert Montgomery Mad Max. Merci encore et puis à bientôt.
Et puis à tout à l'heure.
À tout à l'heure, même, carrément.
Merci à vous.
Carrément.
Salut.
Au revoir.
Chat, extrait de Stromboli, le dernier album de Montgomery, excellente formation rennaise que l'on retrouve ce soir à 21h à la maison des étudiants Fac Richter pour un ciné-concert autour de Mad Max, comme on vous l'a suriné, je ne sais pas comment on dit.
Suriné,
comme on vous l'a rabâché tout au long de ces dernières minutes. Il nous en reste quelques-unes de minutes pour peut-être parler de ce festival qui a débuté hier. Alex, tu étais hier soir au Jam pour le concert inaugural avec Fanga.
Ouais.
Ton retour sur ce concert.
Bah, c'était parfait. C'était parfait. Déjà, la salle, le Jam, c'est toujours une salle qui est super accueillante avec un super public, pas d'embrouilles, toujours des gens, des sunshine people comme on dit hein, dans les carrés VIP. Hein. Mais non, voilà, c'était la salle déjà est super agréable et puis bah, les gars ils étaient grave en forme quoi.
Ouais.
C'était un super concert quoi. Fanga sur scène, ça le fait de mieux en mieux. En plus dans la config le Jam, à savoir donc le groupe à terre et puis les gens un petit peu de tous les côtés, c'était blindé, c'était chaud, ils ont fini avec une pure reprise de Fela, Waititi, ouais. Ça tout coulait de source. Voilà, c'était parfait.
Magnifique.
Et j'ai bien dansé.
Magnifique.
Je me suis fait ripper d'ailleurs et tout le monde s'est foutu de ma gueule après. Quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez.
On te retrouve pratiquement tout au long de ce festival, Alex, pour diverses raisons. D'abord parce que tu es un des membres de l'équipe, hein, organisatrice de ce festival, mais on t'y verra aussi en tant que Alex Terror, The DJ.
Ouais, mardi soir, la soirée disco punk.
Soirée disco punk chez nos amis, chez notre ami Fifi.
Ouais, la Secret Place.
Pour une disco punk party qui promet pas mal de belles choses. Hein, rien que le visuel me ravit avec cette
yes.
voiture. On retrouve l'univers un peu Mad Max d'ailleurs.
Ouais, bah, tout à fait. Hein, de toute façon, on l'a pas dit ça. Mad Max est rapidement devenu une icône punk dès sa sortie.
Ouais.
Voilà.
Et ça tient pas uniquement aux crêtes de certains sauvages qu'on peut voir dans le film.
Non.
À tes côtés pour cette soirée, donc ce sera le mardi 10 novembre à la Secret Place, on retrouvera Cantès,
la moitié dure de Sparto Cantès. Benjamin, c'est le Benjamin, c'est le mec gentil, et ouais. Nico Canto, c'est un petit peu le hooligan des deux quoi.
Celui qui tabasse.
Donc voilà, c'est carrément ça. Donc je pense que ça va être sportif, on va bien s'amuser, ouais. Et puis en plus voilà, c'est vraiment un vieux punk. On va pas lui demander des certificats, il a quand même été bassiste des Wampas de 83-91,
ouais,
l'époque
ouais.
historique, et puis ouais. l'époque historique quand même du rock indé en France. Ouais. Donc voilà, on va pas lui faire à lui, et il se trouve que bah, c'est un pur fan de disco quoi, et donc voilà quoi, c'est parfait quoi.
Et puis également Carla Blondi, bien connu sous nos latitudes. Deux trois petits scoops sur ta setlist peut-être.
Deux trois petits scoops. Ouais, il y aura du Ennio Morricone, ça va craquer quoi. Il y aura du punk, ça, il y aura du métal urbain, il y aura des choses comme cela, et puis il y aura du vrai, 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 pur, bon disco, Vincent Montana, des choses comme cela. Enfin bon, voilà, ça va craquer son slip, comme on dit, et c'est ça, en fait, c'est le mot d'ordre disco punk, justement, pour moi, c'est juste ça, c'est pas les punks la nourrice, c'est pas nécessairement c'est le dawa, c'est le bordel, c'est une sorte de chaos artistique. On va essayer de quand même tenir la rampe, de faire quelque chose de cohérent, mais ça va être ouvert aux quatre vents, et j'espère qu'on va surprendre les gens.
Voilà. Mardi 10, donc ce mardi à la Secret Place à partir de 22h et jusqu'à au moins 3h du matin.
Au moins, ouais, peut-être 4h sinon,
ouais,
c'est chaud.
Ouais. Donc on y sera. On te retrouve également dimanche matin pour un petit brunch tout à fait sympathique.
Ouais, tout à fait, avec le maître queue Xavier Valnet.
Voilà.
Donc voilà, un grand cuistot au fourneau. Et puis, il y aura aussi, donc on fait une petite install vidéo, on va diffuser. Donc on a appelé ça Mondo TV 2.0 parce que c'est un hommage au cinéma Mondo des années 50-60.
C'est quoi alors?
Bah, le cinéma Mondo en fait c'est à la base parti d'un film, en particulier Mondo Canet, Franco Prosperi, et qui était un film en fait qui était une sorte de documentaire en fait avant l'heure, à savoir que c'était des mecs qui partaient dans le monde entier pour filmer les pires travers des gens quoi, les pires trucs étranges aussi, les pires c'est une sorte de documentaire, mais en même temps il y a une sorte de, c'est orienté, et puis il y a des scènes qui sont clairement mises en scène, et là en fait on a appelé ça comme ça pour parce qu'en fait c'est juste maintenant tout le monde peut le faire ça, voilà, avec les moyens technologiques on a les moyens de réaliser les choses, on a les moyens aussi de les diffuser, et pour ça qu'il y a une grosse vague aussi de documentaires en fait en ce moment. C'est vachement revenu parce qu'il y a ce jeu, c'est ce jeu entre réalité et fiction. Et là, en fait, c'est une sélection, on va passer une grosse sélection de plein de petits bouts de plein de choses différentes, des vidéos de la Démoscine, à savoir des programmeurs qui font des petits bouts de films de démonstration qui sont des vrais petits chefs-d'œuvre artistiques. Il y en a certains qui sont vraiment super beaux, quoi. Et avec des parties techniques, à savoir que ce sont l'idée de faire un programme qui pèse que 64 KO. Et ça donne des résultats assez vraiment étonnants. Et il y aura d'autres films, ça sera des pocket films, donc des films enregistrés avec le téléphone portable. Et puis, donc voilà, ça va être hyper éclaté. On est dans une maison pour tous. Et l'idée, c'est culture pour tous. Et donc voilà quoi.
Et brunch pour tous, maison pour tous, Voltaire. Donc ça se trouve Square Jean Monnet à Montpellier. Ça débute à 11h et jusqu'à 17h. Donc ce dimanche, dans le cadre du festival à 100%. On te retrouve également le 10 novembre en Before de cette disco punk partie pour un apéro radiophonique qui sera
justement vous aurez droit à Comtesse en live and direct derrière un micro. Va falloir mettre les compresseurs hein, parce qu'il a tendance à des fois à hurler dans le micro, il sait pas trop se tenir.
Ce sera à 18h mardi donc au bar le 8 de l'Aiguillerie. Et puis demain on se retrouve pour un nouvel apéro radiophonique. On sera en direct depuis chez nos collègues de Kawenga juste au bout de la rue et on recevra les artistes du jour, à savoir Fredo Viola et Soap and Skin qu'on écoute en fond et avec qui on se quitte. Merci Alex d'avoir été avec nous. Et puis rendez-vous ce soir 21h à la maison des étudiants. Donc salut, ciao.
Please help me. Please help me. Please help me. When I was a child, I ran my tongue distraught. As a child, I killed my thoughts and barred with a bark in my spirit core.